vous avoir fait respirer de l'omer. Et je vais passer tout de suite la parole à Anne Balança, qui enseigne à l'Université de Provence, qui travaille surtout sur Platon, qui achève quelque chose sur le thé et tête, et donc qui va nous parler, bon...
C'est plus important ce qu'elle a à dire que ce que j'ai à dire moi, et qui va donc parler maintenant à son tour.
Donc, je remercie le comité d'organisation de ce colloque de m'avoir associée à cette relecture de Jean-Pierre Vernant. Je n'ai pas connu Jean-Pierre Vernant personnellement et mon exposé ne portera pas, comme d'autres exposés, cette empreinte vive. Je m'attacherai à un aspect de sa réflexion qui, pour ne pas être centrale dans son œuvre, reflète cependant les engagements de l'homme et l'inspiration du marxisme. Je veux parler de sa réflexion sur le travail et la pensée technique dans l'Antiquité classique. Donc, Jean-Pierre Vernant a consacré à la fonction technique 5 articles réunis dans 2 recueils différents. Je les rappelle brièvement, les dates à mon avis sont importantes. Prométhée et la fonction technique, 1952. Travail et nature dans la Grèce ancienne, 1955. Aspect psychologique du travail dans la Grèce ancienne, 1956. Et remarques sur les formes et les limites de la pensée technique chez les Grecs, 1957. Ces 4 articles réunis dans Mythes et pensées chez les Grecs sous le chapitre Le travail et la pensée technique. 3 de ces articles ont été repris dans Travail et esclavage en Grèce ancienne, assorti d'un 4e intitulé La lutte des classes. À cet ensemble, il faut ajouter un ouvrage écrit avec Marcel de Tienne, Les ruses de l'intelligence, la métisse des Grecs, paru lui en 1974. Il y a quelques années, en 1999 exactement, nous avions, Didier Pralon et moi-même, réuni une table ronde autour de cette question, la question du travail et de la pensée technique dans l'Antiquité classique et de l'héritage de Jean-Pierre Vernant. Les actes en ont été publiés en 2003. Je ne reviendrai donc pas sur l'analyse des travaux de Jean-Pierre Vernant qui étaient proposés, sinon pour invoquer l'inspiration déterminante de Marx et Engels, qu'avait notamment mise en lumière Philip Hoffman. Je ne reviendrai pas non plus sur le démenti que l'historiographie, depuis les années 1980, a apporté à la thèse d'un blocage des techniques dans l'Antiquité. Indépendamment des découvertes archéologiques qui ont révélé des outils que l'on croyait ignorer du monde grec, l'histoire des techniques a opéré une révolution méthodologique. L'attention de l'historien s'est déplacée de l'outil à la manipulation de l'outil, au processus technique, à la chaîne opératoire, et l'historien a pu ainsi mesurer l'innovation technique au perfectionnement des chaînes opératoires. Loin, en outre, de compter les emprunts que la Grèce devait à l'Orient, il a alors analysé les conditions de ces transferts des techniques. Ce lien qu'établissait Jean-Pierre Vernant entre la pensée des anciens sur le travail et la stagnation des techniques doit être dénoué, car il n'y a pas eu blocage technique. Mais dénoué ne signifie pas rejeter. Dans un de ses articles, « Travail et nature en Grèce ancienne », Jean-Pierre Vernant mettait en lumière les tensions inhérentes à la notion de travail. Alors que la cité trouve sa raison d'être dans l'incapacité de l'individu à vivre en autarcie et qu'elle répond à cette incapacité par la division du travail, ce n'est pas le travail qui constitue le lien politique entre les individus. Je vais citer Vernant. D'une certaine façon, ce que nous appelons la division du travail apparaît comme le fondement de la politéia. Si les hommes s'unissent, c'est qu'ils ont besoin les uns des autres en vertu d'une complémentarité réciproque. La cité se constitue en opposition consciente avec l'idéal d'une autarcie individuelle ou familiale. Et plus loin, est-ce à dire que le rapport de travail constitue le lien entre citoyens ? Pour Protagoras, comme pour Platon et Aristote, la conclusion apparaît exactement inverse. Si le métier définit en chacun de nous ce qui le différencie des autres, l'unité de la polis doit se fonder sur un plan extérieur à l'activité professionnelle. Et la raison qu'évoque Jean-Pierre Vernant, c'est la naturalisation, le terme est le sien, des techniques artisanales. Les métiers répondent aux différents besoins et sont répartis entre les individus en fonction de leurs aptitudes naturelles. Le départ et la fin de la techné, c'est la nature. Citons encore Jean-Pierre Vernant. Les activités professionnelles ne font donc que prolonger les qualités naturelles des artisans. Si on les en distingue, c'est pour les rattacher à des besoins naturels eux aussi. Il est encore un peu plus loin. Soumettant la capacité de l'artisan aux besoins de l'usager, le métier est service, il n'est pas travail. C'est une thèse que Jean-Pierre Vernant développera dans d'autres articles. L'artisan n'est pas un créateur et l'invention des techniques s'arrête avec la satisfaction du besoin naturel qui a motivé leur invention. Jean-Pierre Vernant en arrive donc à cette conclusion. Cette pensée technique n'est pas ouverte vers un progrès indéfini. Chaque art est au contraire, dès le principe, bloqué dans un système fixe d'essence et de pouvoir. Et à l'appui de cette thèse, Jean-Pierre Vernant souligne notamment les limitations qu'impose la forme platonicienne à l'invention des objets fabriqués. Quel sera l'objet de cette communication ? Eh bien, Jean-Pierre Vernant partait d'une hypothèse que partageaient ses contemporains, la stagnation des techniques. Partant de cette hypothèse et cherchant à éprouver la validité de l'opposition marxiste entre valeur d'usage et valeur d'échange, il repérait dans les textes certains faits, et notamment l'absence du travail dans la définition du politique. Ce fait n'est pas à remettre en question, et il atteste la pertinence du regard de Jean-Pierre Vernant. Les explications, elles, le sont. Mais mon objet n'est pas tant de trouver d'autres explications que d'identifier dans les textes eux-mêmes et dans les textes platoniciens auxquels je me limiterai, ce qui induisait Jean-Pierre Vernant à faire de la nature la limite de l'art. C'est ce dénouement donc que je vous proposerai. Mon hypothèse est que les limites qui sont imposées à la division du travail et qu'observait Jean-Pierre Vernant dépendent du postulat qui est posé sur l'origine dans le Protagoras comme dans la République. Ce postulat, c'est l'impossibilité de l'autarcie. Dans les lois où l'autarcie n'est ni principe ni fin de la société, les arts ne sont assujettis à aucune limite naturelle, mais ils n'en constituent pas pour autant un lien social. Le lien politique est un lien moral. Au terme de ce parcours, je rejoindrai donc l'analyse de Jean-Pierre Vernant. Et je commencerai par lire avec Jean-Pierre Vernant ces deux variations sur le thème de la division du travail que sont le mythe de Protagoras dans le Protagoras et la fondation théorique de la cité par Socrate dans la République. Le mythe de Protagoras dans le Protagoras de Platon est longuement commenté par Jean-Pierre Vernant dans Travail et nature en Grèce ancienne et bien sûr dans Prométhée et la fonction technique. Dans ces deux articles, Jean-Pierre Vernant souligne les avancées remarquables dont témoigne le mythe. Le mythe de Prométhée chez Platon exprime une conception très élaborée du technique comme fonction sociale. Pourtant, les leçons du mythe restent à ses yeux ambiguës. L'art politique et l'art militaire sont sous la garde de Zeus. Prométhée ne peut les voler comme il vole à Athéna et Héphaïstos, le feu, c'est-à-dire le génie créateur des arts. Une ironie, souligne Jean-Pierre Vernant de Platon, car la distinction entre Zeus souverain et les divinités techniciennes reproduit l'opposition de la République entre les deux premières classes et celle des producteurs économiques. La seconde ambiguïté, c'est celle qui a trait à la fonction des arts. Épiméthée a oublié de doter les hommes des dynameis qui assurent à chaque espèce leur survie. Prométhée décide donc de voler aux dieux, et là je cite Vernant, les dynameis techniques, qui permettront de réparer cet oubli. Les arts se présentent donc comme des qualités naturelles. Quand Protagoras met sur le même plan les connaissances techniques des humains et les dynameis des animaux, quand il compare l'ordre des métiers à l'équilibre des espèces dans le cosmos, ce n'est pas une figure de style. L'autre texte de Platon que Jean-Pierre Vernant mobilise sur le thème de la division du travail, c'est bien évidemment la République. Je le cite, « Dans la République, Platon est peut-être même plus précis encore que notre sophiste. Il y a naissance de société du fait que chacun de nous, loin de se suffire à lui-même, a au contraire besoin d'un grand nombre de gens. Et chacun, étant différent des autres par sa nature, doit aussi se spécialiser dans des tâches différentes. » Ainsi, les gens se feront part mutuellement des choses auxquelles ils auront travaillé les uns et les autres. Le but de l'association politique sera atteint. » Fin de la citation. Mais la division du travail, réponse de l'humanité à une impossible autarcie, n'est pas en elle-même constitutive du lien social. ce n'est pas dans « Travail et nature » dans la Grèce ancienne, mais dans « Prométhée et la fonction technique » que Jean-Pierre Vernon relève tous les paradoxes de cette construction. La tripartition de la société platonicienne sépare la fonction technique des fonctions guerrières et politiques. Or, cette fonction technique n'a pas de vertu propre. La cité platonicienne doit posséder, une fois achevée, quatre vertus : sagesse, courage, modération et justice. La justice est trouvée en dernier, mais elle était toujours déjà là, puisque c'est celle qui est présupposée dans la construction de la cité, à savoir que chacun fasse la tâche qui est la sienne. Pour les trois autres vertus, le partage se fait inégalement. Et c'est ce qu'observe Vernon, la sagesse revient au gouvernant, le courage au guerrier et la modération, non pas aux artisans, mais à l'ensemble de la cité. La sophrosyné, qui devrait être la vertu propre des producteurs économiques, s'avère commune à l'ensemble des citoyens. Et Vernon remarque, cette étonnante dissymétrie ne s'explique que par le refus d'accorder à ceux dont le travail constitue la fonction sociale une vertu positive. Dans l'article dont je suis partie, « Travail et nature dans la Grèce ancienne », Jean-Pierre Vernon insiste sur la naturalisation des techniques artisanales. Cette naturalisation s'exprime nettement chez Platon. L'artisan est au service de la forme et c'est tout le motif des trois lits de la République au livre 10. La divinité œuvre le lit idéal, l'artisan le reproduit dans un matériau sensible et le peintre imite ce dernier. Je voudrais à présent relire ces textes avec Jean-Pierre Vernon, mais sans le présupposer désormais invalidé d'un blocage technique. Prenons pour commencer le mythos de Protagoras. Ce n'est pas un mythe au sens que nous prêtons à ce terme, mais une figure de style. Ce qui se dit sur le ton du mythos pourrait se dire sur un mode argumentatif, logos. Son but est de justifier le fonctionnement de l'assemblée athénienne, le fait que tous les Athéniens puissent donner leur avis lors de l'assemblée. Insistons donc sur ce point, le mythe ne décrit pas proprement l'origine, l'arché de la cité, il justifie une politéia particulière qui est la démocratie. C'est donc un conte démocratique et non, à strictement parler, une réflexion sur les origines. Dans cette fable, il y a Épiméthée, celui qui réfléchit après avoir agi, et Prométhée, celui qui réfléchit avant d'agir. Quand le temps est venu de faire sortir de terre les espèces mortelles, les dieux, rappelons qu'ils ne sont là que pour les besoins de l'histoire et que l'agnostique Protagoras ne les tient pas vraiment pour les créateurs des espèces animales, les dieux donc ordonnent aux deux frères de répartir entre les espèces les dynameis appropriées. Le but de ce partage est clairement fixé, c'est la survie, eis soterian, 320e. Bien sûr, Épiméthée a oublié une espèce, l'espèce humaine. Il a distribué toutes les dynameis entre les allogas, les espèces dépourvues de logos. Ce qui fait que la seule espèce dotée de logos se trouve privée de tout. Elle est nue, gubnon, elle est sans chaussures, anupodeton, elle est sans couverture, astroton et sans armes, aoplon, 321c. Et c'est pour assurer la survie des hommes que Prométhée vole non pas le feu, mais ten entechnon sophian sunpuri, la sagesse qui réside dans les arts et fonctionne avec le feu, ou encore ten te empuron technen, l'art qui utilise le feu. Ce que reçoivent donc les hommes, ce ne sont pas des dynameis. Le terme est réservé aux allogas. Ce que reçoivent les hommes, c'est une sophia, ce sont des technai. Et comme le mythe ne fait que décrire ce qui est un état de fait, on comprend bien que les animaux sans logos n'ont que des capacités naturelles pour survivre, tandis que l'homme, qui est toujours déjà doté de logos, survit en vertu des savoirs qu'il acquiert. Ten men un periton bien sophian, la sagesse qui est relative à la survie. Dans la structure du mythe, la sagesse et l'art s'opposent aux dynameis comme l'espèce humaine s'oppose aux espèces allogas. Il me paraît donc improbe de parler de capacité technique. La sagesse et l'art relèvent du logos, les capacités dunameis, de l'activité instinctuelle. Le mythe n'indique donc pas une continuité, mais une différence. Il départage nature et culture. Et le mythe présente un autre indice de cette différence. Le don de Prométhée met les hommes en possession d'une part divine, Theias Moiras, 322a. C'est toujours l'agnostique Protagoras qui parle. Cette part divine allégorise la place du religieux dans les sociétés humaines et du langage exactement. Les hommes sont les seuls animaux à prier les dieux et à instaurer des cultes. Ce sont des êtres de culture. Malgré tout, cette sagesse volée s'avère dans le mythe insuffisante. Isolés, les hommes succombent aux assauts des bêtes sauvages. Ensemble, ils se détruisent. Le rapport qui est supposé ici comme étant originel, le rapport de l'homme à ses pairs ou de l'homme aux autres animaux, c'est un rapport de guerre. Un seul art manque, l'art politique, politique gar technen 322, car seul il introduit la philia dans les relations humaines et seul il permet aux hommes de s'unir et en s'unissant de lutter contre les menaces extérieures. L'art de la guerre, polémique, n'est qu'une facette de l'art politique. L'union politique fait ici la force militaire. Or, dans le mythe, il se trouve auprès de Zeus, inaccessible à Prométhée. Jean-Pierre Vernant insiste sur cette hiérarchie que sous-entend le mythe. L'art politique est dans l'acropole de Zeus, bien gardé. Les techniques utilitaires sont dans l'atelier d'Héphaïstos et Athéna à la merci d'un vol. C'est dire que même pour un Protagoras, le politique exclut ou s'exclut du technique. Mais dans le récit, cette fable, ce conte politique que fait Protagoras, le don généreux de Zeus souligne l'inutilité même du vol. Il n'y a pas de retenue de la part de Zeus, pas de vengeance exercée contre les mortels, et le châtiment de Prométhée est à peine évoqué. Le don s'adresse en outre à tous les hommes, y compris les artisans. Le mythe indique donc bel et bien la suprématie de la fonction politique, de l'art, de la sagesse politique sur les autres, et indique bien que la sagesse politique est la véritable condition de survie de l'espèce humaine, mais il ne l'affirme pas au détriment de la fonction technique. Concluant sur cette première lecture, le mythe de Protagoras ne fonde pas la cité, mais il justifie la démocratie. Il n'oppose pas les techniques utilitaires à l'art politique. Il dote les artisans aussi d'une vertu politique. Bien loin d'établir une continuité entre l'art et la nature, il me semble au contraire qu'il les sépare, opposant les animaux à loga et pourvus d'une dynamis pour survivre, à l'animal doté de logos qui crée ses propres moyens de survie. Le mythe cependant indique bien une chose, ce n'est pas le travail qui fonde la sociabilité humaine, mais des vertus morales, aidos, kaidike, l'honneur et la justice. Le domaine de la politique ne se dissocie pas du domaine de la morale. L'arrêté proprement humaine est indissolublement éthique et politique. Je viendrai maintenant à la République, au passage où Socrate décide d'observer la naissance d'une cité. Le regard de Socrate n'est pas celui de l'historien, mais celui du théoricien. Ei gignomenen polin theasai meta logo, si nous observons une cité en train de naître théoriquement. Ce regard n'est pas dénué d'ambiguïté, puisque dans le même temps, Socrate se pose en fondateur de cette cité, et donc il est à la fois observateur de ce qu'il est en train de créer, ou plutôt l'observateur crée ce qu'il observe. Le principe de cette naissance, de cette fondation, c'est, comme l'observe Jean-Pierre Vernant, l'impossibilité de vivre en autarcie, et paide une caneille émon et caston ouk autarques, puisque chacun de nous n'est pas capable de vivre en autarcie, ou encore c'est notre besoin, et emetera crea. La cité répond à ce manque en divisant le travail. Elle n'est pas une entité politique, mais un lieu d'échange de compétences. Les hommes se répartissent les métiers destinés à subvenir à leurs besoins en fonction de leurs aptitudes. Le besoin le plus fondamental est celui de se nourrir, le deuxième de s'abriter, le troisième de se vêtir. Et là, je voudrais noter le strict parallèle entre le gymnon, anupodeton, astroton et auplon du Protagoras et cette situation initiale telle que la caractérise Socrate. La cité, qui est réduite à sa plus simple expression, comporte 4 ou 5 citoyens, un agriculteur, un maçon, un tisserand et un cordonnier. Mais comme l'accomplissement de chacun de ces métiers implique des tâches supplémentaires qui n'en relèvent pas directement, alors là, il y a vraiment une pensée technique, puisque Socrate intègre chaque technique dans un système. La cité s'accroît de nouveaux métiers, de nouvelles technailles, et il lui faut des forgerons, des pâtres, des marchands et des hommes de service. Et c'est quand on a trouvé ces hommes de service que la cité est considérée comme achevée, suffisante. Alors, le tableau est très connu et ce texte, je pense, est à l'esprit de tout le monde. Cette première cité a des allures d'âge d'or. Les hommes y font leur vin, leur blé, leur maison, leurs chaussures. L'été, ils vivent nus. Alors là aussi, c'est un petit peu curieux. Et sans chaussures, on se retrouve dans une situation quasiment primitive qui est celle des premiers hommes dans le mythe de Protagoras. Ils mangent des plats rustiques, ils sont couchés sur des branchages, ils n'ont, je le souligne, ni lit, ni table. Et ils vivent ainsi dans la joie et la bonne humeur en chantant des hymnes aux dieux tout en buvant. Or, là encore, on retrouve quelque chose d'insolite, c'est que les dieux font leur apparition dans un système qui n'avait pour seul présupposé que le besoin. Il n'a pas été dit au départ que les hommes avaient besoin de Dieu. Or, dans les deux textes, on voit apparaître ce qui est toujours un dépassement de l'hypothèse de l'autarcie. En tout cas, Glaucon s'indigne de la grossièreté de leur repas, et Socrate, qui bien évidemment ironise, s'avise de rajouter quelques friandises, donc du fromage, des olives. Ça ne suffit pas à calmer Glaucon, qui dit, la phrase est célèbre, que si Socrate fondait une cité de porcs, il ne les engraisserait pas autrement. Voilà donc quels sont les citoyens que l'on peut trouver dans une cité qui ne répond qu'aux besoins vitaux des porcs. Et ce n'est pas dans cette cité, note Socrate, que l'on peut trouver ce qu'il recherche, à savoir la justice et l'injustice. La justice ne peut se voir que dans une cité qui a aussi développé l'injustice. Socrate passe donc à l'examen d'une cité corrompue, une cité où l'on mange à table, où l'on dort sur un lit, où l'on se régale de mets raffinés en écoutant de la musique et en regardant des œuvres d'art. Et là, je ferai une parenthèse, on voit que la table et le lit apparaissent dans cette dernière phase de la cité, dans cette cité enflée d'humeur qui comprend le luxe. Or, précisément, la table et le lit, ce sont les modèles artisanaux que l'on retrouve au livre 10 de la République. Ce qui prouve qu'il n'y a qu'une métaphore dans cette idée du lit et de la table, étant donné que ce qui répond à un désir et non pas à un besoin ne saurait être une essence de toute éternité. Il y a ici ce qui n'est pas fixé par la nature ne peut avoir ici une forme immuable. En tout cas, ce que montre l'objection de Glaucon, c'est que l'humain ne se voit pas dans ses besoins. L'humain se voit dans ce qui ne répond pas à un besoin, le luxe, le raffinement, le superflu. Or, il y a quelque chose de curieux dans ce passage de la République. C'est le besoin qui motive le principe de la répartition des tâches. Mais une fois ce principe accepté, le motif est abandonné. Comme le besoin est un critère insuffisant de l'humanité, il ne permet pas de distinguer les hommes des porcs. L'objection de Glaucon a un rôle décisif, elle désolidarise le principe de la répartition des tâches du motif de l'autarcie. Le motif de l'autarcie présuppose que la fin de la cité, c'est la survie de l'espèce. Mais cette fin est jugée irrecevable. Mais cependant, le principe de la répartition des tâches, lui, est conservé. Et il sert à définir la politéia de la cité. Strictement appliqué, ce principe aboutit à la division en 3 classes, gardiens, guerriers et producteurs économiques, et en 2 groupes politiques, les gardiens gouvernants et le reste des gouvernés. En un sens, donc, l'écart entre le rôle assigné à la division du travail et la place accordée aux producteurs économiques n'en est que plus paradoxal. Mais cet écart n'est pas dû à une pensée qui naturaliserait les productions artisanales. La cité corrompue montre que les arts ne répondent pas tous à des besoins. La plupart, voire la majorité, créent des désirs. Et les désirs n'ont pas de limite. Si les arts se bornaient à satisfaire les besoins des individus, Socrate n'aurait nul besoin ultérieurement de distinguer par exemple deux médecines, l'une qui rétablit un désordre ponctuel créé par une maladie ou un traumatisme, et l'autre qui compense les effets des dérèglements des individus. En d'autres termes, non seulement les hommes inventent des raffinements qui les rendent malades, mais ils inventent les remèdes aux maladies qu'engendrent leurs excès. Et l'artefact humain, de ce point de vue-là, se situe bien au-delà des besoins pour Platon comme pour, comme pour le Protagoras du Protagoras. Le mythe de Protagoras et la fondation théorique de Socrate se présentent donc comme des variations rivales sur le thème de la division du travail. Chacune de ces variations est porteuse de paradoxes. Protagoras fait de la politique une techné, non pas particulière, mais universellement partagée, et il récuse de ce fait le principe même de la division du travail. Socrate spécialise la politique au même titre que les autres technaï, mais par une ruse, il fonde la cité sur des vertus communes à tous les citoyens, la sophrosyné et la diké. Ces deux variations partent d'un même présupposé, le dénuement initial de l'être humain, lequel dénuement appelle théoriquement cette répartition des tâches. Mais dans les deux cas, ce présupposé montre ses limites. Je l'ai dit, le culte des dieux, hein, l'hommage, le chant des dieux apparaît sans qu'il soit question d'une universalité dans les deux, hein, dans les deux dialogues, au moment où on est strictement que dans une analyse des besoins. Dans les deux cas aussi, une ruse permet de sortir des limites étroites qu'impose l'autarcie comme fin. Protagoras fait l'hypothèse de la guerre et de la division. Socrate, rappelé justement à l'ordre par Glaucon, fait une hypothèse voisine. Il fait l'hypothèse d'une cité luxueuse. Laquelle cité luxueuse va susciter, en même temps que la convoitise de ses voisins, la guerre, d'où l'invention des guerriers, etc. Donc, dans un cas, on a une techné politiquée qui est universelle et qui, dans le mythe de Protagoras, prend la forme du don de Zeus. Dans l'autre cas, on a une techné politiquée spécialisée, mais qui procède l'une comme l'autre de cette guerre qui est mise stratégiquement à un moment où le besoin ne suffit pas à caractériser la cité. Et il me semble donc que c'est ce motif de l'autarcie nécessairement trompeur. On voit comment les deux, comment Protagoras et Socrate disent qu'ils s'en servent de ce principe tout en dépassant toujours ce principe. Donc c'est ce principe qui, à mon avis, ce motif de l'autarcie qui a incité Jean-Pierre Vernon à parler de la naturalisation de l'art. Or, je voudrais à présent montrer, mais je crois que je n'aurai pas le temps. 5 minutes. Alors je vais très rapidement résumer ce qui devait être une partie de cet exposé. Je voudrais à présent montrer que ce motif de l'autarcie n'est pas du tout une figure obligée de la pensée grecque, qu'il est, de mon point de vue ici, hérité des discussions sophistiques qui visent à départager la nature de la culture, que Platon dans la République pervertit ce motif sophistique, mais que l'on trouve chez Platon même une réflexion sur les sociétés humaines qui en fait l'économie et conséquemment qui fait l'économie de la division du travail. Et c'est ce que l'on trouve au livre 3 des lois. Donc le projet des lois est très différent à la fois du projet du Protagoras et du projet de la République. L'Athénien des lois entend trouver le principe au livre 3 et l'origine de la politéia. Et pour trouver cette arché, il décide d'observer les changements qui affectent les cités. Alors, comme je n'aurai pas le temps de développer, j'insiste un peu, dans le sens de la vertu et du vice. C'est-à-dire que d'office, là encore, on retrouve la politéia dans quelque chose qui se situe sur le terrain de l'arrêté. De l'arrêté et de son antithèse, la kakia. Et pour trouver... Or, il n'y a pas d'origine à la cité dans ce livre des lois. L'Athénien explique que dans l'éternité du temps, il y a eu toutes les cités et toutes les constitutions possibles. Mais il faut simplement avoir prise là-dessus. Et donc, pour avoir prise, l'Athénien s'appuie sur les récits du passé, et notamment les déluges qui sont mentionnés par ces Palaioi Logoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces... Donc, c'est une fausse origine, en quelque sorte, que donnent les lois, puisque... ce que l'on pose comme étant à l'origine, c'est toujours déjà ce qui reste d'une humanité qui était très développée. Or, qu'est-ce qui reste de cette humanité après le cataclysme ? Eh bien, il reste des montagnards, des pasteurs montagnards, Oreioi Tines Nomes, qui sont donc les dernières petites braises sauvées du genre humain. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Je résume maintenant très rapidement. Ces rescapés, ce sont des pâtres qui habitent les montagnes. Ils sont sans expérience des arts. Cette inexpérience des arts n'est pas totale, puisque l'Athénien explique, en rectifiant après coup le tableau, que la divinité leur a fait don des arts du modelage et du tressage. Ai plasticae kai osai plecticae ton technon. Autrement dit, ces pâtres savent faire des peaux, déjà tisser leurs vêtements, enfin, faire des cabanes de branchage, etc. Le modèle de cette vie pastorale, ce sont les cyclopes de l'Odyssée, et on a à peu près toute la caractérisation des cyclopes de l'Odyssée, sinon qu'ils ne cultivent pas la terre, ils n'ont plus d'outils et ils ne cultivent pas la terre. On voit donc apparaître ici, par rapport aux deux modèles précédents, un modèle pastoral opposé à un modèle qui privilégie l'agriculture. Et ce modèle pastoral, dès le départ, est dit suffire pour l'autarcie. La question de l'autarcie est réglée d'office. Elle n'amène aucune division du travail. Et de la même façon, le fait que ces arts qui sont plecticae, ces arts du modelage et du tressage, qui sont donnés par la divinité, s'opposent très nettement dans le texte des lois aux autres arts qui sont toujours caractérisés comme des inventions humaines. Des inventions humaines dont il est clairement dit qu'ils connaissent un progrès continu jusqu'à ce qu'un une catastrophe vienne arrêter leur progrès. Donc, il y a une caractérisation différente. Donc, ce que montre le modèle des lois, et au dernier point, ces pâtres vivent dans une paix parfaite, sans avoir besoin ni d'aïdos, ni de diké, ni de gouvernant. Enfin, bon, c'est une harmonie qui règne entre eux, il n'y a pas de guerre. Là encore, l'état de guerre n'est pas présupposé. Ce que montre donc le modèle des lois, c'est que la réalisation de l'autarcie n'implique pas la division du travail. La famille répond. Le modèle des lois, c'est le modèle familial. Alors que les deux autres modèles partaient de l'individu et non pas de la famille. Dire que les hommes se réunissent en cité, au sens politique du terme, parce qu'ils peuvent survivre en étant seuls, c'est une hypothèse parmi d'autres. Le second point, c'est que cette première société humaine, qui est très ambiguë, Platon dit qu'ils ont malgré tout une politéia, qui est la dynastéia, mais qu'ils n'ont pas de loi écrite, grammata, qu'ils n'ont pas de législateur. Cette première société humaine, ce qui la caractérise, c'est qu'elle obéit malgré tout à des lois non écrites. En d'autres termes, il n'est pas de société humaine qui n'obéisse à des lois, qu'elles soient écrites ou pas, et dans le contexte des lois, ces lois sont fondées sur un usage immémorial. Donc, l'Athénien indique quel est le principe de la vie en cité. Il faut partager des croyances sur les hommes et sur les dieux, et quand la cité apparaîtra proprement, la cité proprement dite apparaîtra, c'est-à-dire quand ces îlots de famille fusionneront en une cité, ce qui fera la vie politique, c'est le compromis que trouveront ces familles entre différents usages originels. Je conclurai en disant que qu'est-ce qui rattache le thème des lois au thème précédent ? Eh bien, je crois que dans les trois, malgré tout, la politéia, c'est quelque chose qui... J'insistais parce que je n'ai pas le temps de développer, que l'on peut observer dans... Je cite le texte, « La tension de la cité quand elle progresse vers la vertu et le vice. » Eis aretan amakai kakian. Non pas la vertu ou le vice, mais la vertu en même temps que le vice. Avec la disparition des cités, au livre 3 des lois, c'est, dit Platon, l'Athénien, beaucoup de vices et beaucoup de vertus aussi qui disparaissent. Polé men poneria, polé décaïreté. De ce fait, les montagnards des lois sont un peu comme les citoyens de la première cité platonicienne, la première cité de Socrate dans la République. Ils sont indéniablement bons, agathoi, mais tout simplement parce qu'ils sont innocents. Et ce que montre le dépassement de la cité dans la République comme dans les lois, on n'est pas encore dans une véritable cité avec ses organismes familiaux, c'est qu'il faut connaître à la fois l'arrêté et la kakia pour pouvoir vivre en cité, pour que la cité existe. C'est à ce moment-là, dans ce passage-là, que se voit proprement la création politique.